Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, objectif, redevenir une nation d'innovation. Les choix d'Emmanuel Macron pour 2030, investissement dans la biomédecine, les voitures électriques, les puces électroniques, le nucléaire, retrouver plus d'indépendance.
Je veux que nous retrouvions un cycle vertueux, innover, produire, exporter et ainsi financer notre modèle social. 30 milliards d'euros pour répondre justement à ce déficit, en quelque sorte, de croissance française.
Le président insiste aussi sur le soft power, l'influence des créateurs de séries et jeux vidéo. Le plan France 2030, on le détaille dans un instant. Puis une première réaction, celle de l'économiste Philippe de Sertine. Et à 13h30, le choix du nucléaire, assumé par le président de la République. On en parle avec l'un des députés de la majorité qui suivent ces questions de près, Thomas Gassilou. Le nucléaire, énergie d'avenir ou pas? Vos questions, 01 45 24 7000. Et l'appli France Inter, rubrique réagir. L'énergie coûte de plus en plus cher, 1,53€ le litre de gazole hier, record absolu. Le plein de carburant devient une souffrance.
Bien sûr, j'hallucine. Moi, quand j'ai eu le permis, il était à 3,97€.
Et le dernier rapport du médiateur de l'énergie alerte sur le poids de la facture pour les ménages les plus pauvres, le gaz, l'électricité. Dans l'actualité encore, il ne voulait pas de primaire, être seul face aux Français. Finalement, Xavier Bertrand participe au congrès des LR en décembre. Soulagement à droite ce matin. Le témoignage des collègues de Samuel Paty, quelques jours avant l'hommage, il confie à Sonia Princey, les peurs et traumatismes qui demeurent. La lutte contre le Covid au Royaume-Uni, au début de la pandémie, échec historique selon un rapport parlementaire. Et puis le fils de Superman est bisexuel, l'auteur de BD Tom Taylor lui donne cette identité. Vos rendez-vous dans le 13-14, le feuilleton, une semaine dans la vie de l'activiste Alice Barbe. Aujourd'hui, une rencontre avec Obama.
Et là, une dame arrive et dit... Bon alors, maintenant je vais vous demander de me donner tous vos téléphones, tout ce qui est susceptible d'enregistrer une conversation, et vous allez vous asseoir, le président Obama arrive, si vous vous levez, le Secret Service va vous tomber dessus, et on plaisante pas avec le Secret Service.
C'est à 13h50, le vif de l'histoire, le roi et les animaux à Versailles, et c'est une chanson, aujourd'hui, un danseur de claquettes, avec Frédéric Pommier. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Le discours a duré plus d'une heure et demie dans la salle des fêtes de l'Élysée. Emmanuel Macron a dessiné ce qu'il aimerait être la France de 2030. Un plan d'investissement de 30 milliards d'euros pour tirer les enseignements de la crise Covid, tourner la page et se projeter bien au-delà. Bonjour Maxence Lambrec.
Bonjour.
En direct de l'Élysée, Maxence, le président dit vouloir rebâtir l'indépendance productive de la France.
Et oui, pour une France plus indépendante, Emmanuel Macron offre l'enveloppe la plus importante au monde de la santé. C'est une surprise, 7 milliards et demi d'euros, là où les anglo-saxons ont pris de l'avance et alors que la France a raté le vaccin anti-Covid, Emmanuel Macron pose cet objectif.
L'objectif concret que nous devons nous donner d'ici à 2030, c'est d'avoir au moins 20 biomédicaments contre les cancers, les maladies émergentes et les maladies chroniques, dont celles liées à l'âge, et de créer les dispositifs médicaux de demain en France.
Deuxième axe, les transports du futur, 4 milliards. Objectif, un premier avion bas carbone en 2030 et la production en France de 2 millions de voitures hybrides ou électriques à cette échéance. Faudra que les constructeurs jouent le jeu, admet-il. Troisième axe, le nucléaire, 1 milliard, notamment pour la création de réacteurs nucléaires de petite taille, une technologie plus sûre, dit-il. Quatrième objectif, devenir le leader de l'hydrogène vert pour alimenter avions, trains, bus. Il n'oublie pas une des préoccupations des Français, l'alimentation. 2 milliards pour mieux manger. On attend les détails. Et à côté de ces 10 objectifs, 5 conditions de réussite, notamment la formation des talents, l'accès aux matériaux, 6 milliards dans les composants électroniques. Quant à la méthode, Emmanuel Macron se méfie déjà des gros groupes qui vont vouloir récupérer cette manne, non pour investir, mais pour financer leurs habitudes. Il veut des jurys exigeants, ouverts aussi bien aux start-up qu'au CAC 40.
Objectif 2030, donc, mais Maxence, il y a aussi des objectifs à plus court terme.
Et oui, c'est un vrai projet politique qu'Emmanuel Macron vient de dévoiler. Je suis lucide sur ma propre condition, reconnaît-il d'une phrase, mais il veut que son nom soit associé à cette échéance si lointaine au-delà de son éventuel deuxième quinquennat, prouver qu'il projette déjà la France, qu'il a tous les défis en tête, qu'il met presque de côté son bilan pour voir loin, très loin. Il sait que dans ce domaine, il a une longueur d'avance sur ses adversaires, pas question de la perdre. Et il reste sur sa ligne pro-nucléaire et pour l'industrie automobile, pour l'aéronautique. Il a voulu élargir son propos aujourd'hui, ne pas évoquer que les enjeux purement industriels.
On en reparle dans un instant. 30 milliards donc pour la France de 2030, le nucléaire, les voitures électriques, les transports propres, les semi-conducteurs, la biomédecine, l'innovation en un mot. Être présent, dit le président de la République, au bon moment sur l'innovation qui peut tout changer. Soit on est dedans, soit on est dehors. transports. Alors les choix sont-ils les bons? Réponse d'un économiste qui n'est pas un anti-macroniste primaire, directeur de l'Institut de Haute Finance, Philippe de Sertine. Les choix sont-ils les bons? Pour lui, la réponse est non.
Lorsque l'on parle de 30 milliards, on est effectivement avec du saupoudrage. On doit bien se rendre compte aujourd'hui que l'échelle des investissements dans un seul secteur se chiffre en centaines de milliards. On ne peut pas se permettre d'être comme on doit l'être quand on fait de la politique, un peu avec le passé, un peu avec le futur. La France de l'automobile ou de l'aéronautique, ce n'est pas une France éternelle, c'est la France de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. On doit être totalement sur le futur et totalement sur des projets qui sont réellement les projets créateurs de valeur et non pas ceux qui semble être en phase avec, on va dire, l'imaginaire français. L'objectif qui doit être prioritaire, c'est l'objectif de la data, c'est là que se crée la richesse, c'est là qu'elle se détruit en mettant des centaines de milliards d'euros sur la question du cloud, sur la question de l'indépendance de l'Europe. Aujourd'hui, on détruit une économie en attaquant ses réseaux d'information. Nous n'avons aucune capacité de défense. C'est là, exactement là, qu'il faut concentrer tout l'investissement aujourd'hui.
Un propos recueilli par Laurent Kramer. Autre commentaire tout à l'heure. Après la présentation de ce plan, l'un des députés qui suit de près les dossiers énergétiques en particulier, député du Rhône, Thomas Gassilou, il est notre invité à 13h30. On parlera en particulier du choix renouvelé du nucléaire. Vos questions sur ce thème, nucléaire, énergie d'avenir ou pas, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Un dernier éclairage sur le discours d'Emmanuel Macron ce matin. Il veut faire de l'exploration des fonds marins une priorité pour 2030. La nouvelle aventure spatiale aussi, il s'agit de mini-lanceurs réutilisables. Là, c'est horizon 2026. Et puis le soft power, au terme d'un quinquennat qui n'a pas été marqué par de grands projets culturels, parmi les 10 objectifs que le chef de l'État se fixe pour la France de 2030, retrouver une influence dans le domaine de l'imaginaire. Il insiste sur les séries et jeux vidéo en particulier.
Les séries, les films que nous regardons sur les plateformes comme Netflix, Amazon, Disney+, les jeux vidéo auxquels nos enfants sont confrontés, forgent nos imaginaires, nos accès à des héros, une forme de nouvelle anthropologie collective. Si notre jeunesse en 2030, où nous tous, nous n'avons le choix qu'entre des contenus qui sont produits, pareil, par d'autres grandes puissances, que nos histoires sont perdues, que les fictions que nous regardons ne sont plus celles qui sont produites en France, nous changeons de monde, drastiquement. La question, c'est qui, aujourd'hui, bâtit l'imaginaire français, européen et mondial de demain? Et c'est une compétition. Aujourd'hui, je regarde beaucoup de nos voisins, ils investissent des milliards d'euros dans ces industries. Sur ce sujet, il y a évidemment tout le secteur privé qui doit être largement contributeur. Mais le rôle de la puissance publique est de déclencher des pratiques d'investissement et la création de filières. Nous devons être dans la partie.
Emmanuel Macron ce matin dans la salle des fêtes de l'Élysée. Maxence Lambrecq nous a détaillé ce plan en début de journal. Si vous voulez retrouver les différents points importants, il y a évidemment franceinter.fr, notre site internet. 7 mois après sa déclaration de candidature, Xavier Bertrand renie des propos maintes fois répétés. Un postulant à l'Élysée, c'est un homme seul face au peuple. Pas question de participer à une primaire, disait-il. Eh bien, il se soumet finalement à la sélection interne au parti Les Républicains. Ce sont les militants qui choisiront le 4 décembre en congrès. Xavier Bertrand l'a annoncé hier soir au journal de 20h sur TF1. Ce matin, il retrouvait les sénateurs LR et à l'Assemblée nationale, la réunion de groupe du parti de droite se tenait comme chaque mardi. LR a donc ses 5 candidats, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Philippe Juvin, Éric Ciotti et donc Xavier Bertrand. La décision du président des Hauts-de-France est un soulagement à droite, Anne Souhaitement.
Ouf de soulagement général ce matin à droite. Dans les couloirs de l'Assemblée, tout le monde salue la décision de Xavier Bertrand. Seule solution pour avoir un seul candidat. Ses adversaires lui reconnaissent même du courage. En allant au Congrès, il ne choisit pas la configuration la plus facile, relève un député pro-Barnier. Aurélien Pradier, numéro 3 du parti, a le sourire aux lèvres.
En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour notre famille politique d'avoir pu installer une règle du jeu que tout le monde accepte et qui va nous permettre d'avoir un candidat unique. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux dans ce pays qui espèrent que la droite française prenne ses responsabilités et ne soit pas la plus bête du monde.
Après des mois de flottement, l'irruption du phénomène Zemmour, une nouvelle phase s'ouvre donc à droite. On va enfin pouvoir parler de fond, se félicitent les parlementaires. Un débat télévisé est d'ailleurs déjà dans les cartons. Mais attention, prévient Annie Genevard, vice-présidente du parti, ce ne doit pas être une campagne d'affrontement.
Certainement pas des débats musclés, si par musclé vous entendez des débats d'affrontement. Rien ne serait plus préjudiciable aux candidats eux-mêmes que de chercher de grossir les différences.
Des débats, mais feutrés pour convaincre les militants. Xavier Bertrand, qui a quitté le parti en 2017, a du pain sur la planche. De favori dans les sondages, il pourrait devenir le challenger face à Michel Barnier, très populaire auprès de la base. Première marche de cette nouvelle campagne pour Xavier Bertrand. Un rendez-vous ce matin avec les sénateurs.
Et donc le congrès des LR le 4 décembre prochain, congrès qui désignera le candidat du parti de droite à la présidentielle. Voici un record historique, 1,53€ le litre de gasoil. Valentin Dunade, vous l'avez constaté auprès de consommateurs dans cette station-service de Choisy-le-Roi en banlieue parisienne, la hausse des cours du pétrole se sent très nettement à la pompe pour ce monsieur par exemple.
Bien sûr, j'hallucine. Moi, là, quand j'ai eu le permis, il était à 3,97 francs.
En effet, depuis les années 80, le prix du litre de gasoil a plus que doublé, mais cette année, la hausse est spectaculaire, plus 28% avec un pic ces derniers jours.
Oui, c'est vrai qu'il y a quoi, il y a une semaine, il était à 1,49, je crois, un truc comme ça, et il est passé à 1,53 là d'un coup. Donc ouais, clairement que je l'ai remarqué. Je conduis beaucoup plus économiquement, c'est clair, dans les bas régimes pour essayer de consommer le moins possible, parce que c'est vrai que sinon je vais mettre de l'essence tous les jours, quoi.
Sauf que certains n'ont pas le choix et pour eux la différence est flagrante, près de 15€ de plus pour un plein comparé à l'an dernier. C'est ce que paye Marc, qui est couvreur zingueur et qui doit venir à la pompe avec sa camionnette deux fois par semaine.
D'habitude, je mets 100 euros, j'ai le plein, ça bloque direct. Là, ça bloque plus du tout, je suis obligé de rajouter des sous dessus, quoi. Déjà là, on n'y arrive plus, hein. Même en faisant des devis à des clients, ils nous disent qu'on est trop cher et on sait plus quoi faire, quoi. Là, on voit que le gazole, il a encore augmenté, l'essence. Nous, en tant que professionnels, même particuliers, hein, les gens, ils n'en peuvent plus, quoi.
Pour l'instant, aucune aide n'est prévue pour faire face à cette hausse des carburants qui, selon les mots et les appréciations du Premier ministre Jean Castex, n'est pas dans l'explosion.
Et à cette hausse s'ajoute celle du prix du gaz, près de 60% depuis le début de l'année. Le gouvernement, pour le tarif réglementé, hein, le gouvernement a mis en place un chèque énergie supplémentaire de 100€ en décembre pour 6 millions de foyers. Et les futures hausses du prix du gaz seront étalées dans le temps. Mais beaucoup de foyers s'inquiètent, en témoigne le dernier baromètre du médiateur de l'énergie publié ce matin. 20% des foyers disent avoir souffert du froid dans leur logement au cours de l'année écoulée, plus 6 points en un an. 6 Français sur 10 disent avoir réduit le chauffage pour faire baisser leur facture. Et Claire Chaudière, ces déclarations recoupent ce que constatent les associations d'aide aux plus pauvres.
Hausse du poids des factures énergétiques, difficulté à les payer, baisse du chauffage et froid ressenti à l'intérieur. Les voyants du baromètre du médiateur de l'énergie sont dans le rouge. Et cela alors même que la situation était déjà mauvaise, alerte Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre.
Les indicateurs augmentent de 6 points, de 8 points, de 7 points et montrent que la situation s'aggrave. Et nous, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'il y a bien une dynamique qui s'est créée autour de la rénovation thermique des logements. Mais en même temps, on n'arrive pas vraiment à toucher à ce stade, les populations les plus fragiles et les plus pauvres.
L'association qui propose un doublement du chèque énergie et le reste à charge zéro pour l'isolation des foyers les plus modestes. À la CLCV, Association de consommateurs, Jean-Yves Manot craint aussi de fortes tensions à venir cet hiver, malgré le coup de pouce et les récentes annonces de Jean Castex.
Ce qui s'est passé au moment du Gilet jaune, c'est exactement la même situation aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont exclues du chèque énergie, en situation de précarité financière. Les personnes ne peuvent plus payer. C'est ça la réalité aujourd'hui en France.
Un levier possible tout de même, celui de la baisse de la TVA sur l'énergie, comme en Espagne, glisse cet expert. Et une urgence, conclut-il, celle de reposer, comme l'a d'ailleurs suggéré Bercy, la question des règles du marché de l'énergie au niveau européen.
Autre association qui vient en aide aux plus pauvres, le Secours Populaire, sa secrétaire générale, demande au gouvernement d'arrêter la numérisation des services publics à marche forcée. Ce n'est pas par les ordinateurs que vous allez résoudre les problèmes des gens, dit Henriette Steinberg, qui estime que certaines populations non salariées en particulier sont passées sous les radars du quoi qu'il en coûte. La fusion des réseaux de banques de détail entre Société Générale et Crédit du Nord entraînera 3700 suppressions de postes à partir de 2023. Aucun départ contraint, assure le groupe ce matin, que des départs naturels et des mobilités internes. C'est un reportage exceptionnel que vous proposait France Inter ce matin dans le Zoom de la rédaction à 7h15. Un an après l'assassinat de Samuel Paty, ses collègues du collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine ont avoué leur peur, les traumatismes qui demeurent extraits.
J'avais aussi cette peur de flancher devant les élèves, de faire n'importe quoi. Enfin, je vous donne un exemple, hein, c'est... Je faisais un cours au rez-de-chaussée et puis quelqu'un est entré sur le parking, quelqu'un que je ne connaissais pas. Et là, j'ai dit à tous mes élèves de se taire. et j'ai fermé la porte à clé.
Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
Ces enseignants avaient toujours refusé de témoigner jusque-là. Ils l'ont fait à votre micro et auprès de nos confrères de Libération. Il y a 50 professeurs dans ce collège. Un a changé de métier, deux sont toujours en arrêt maladie, 5 ont obtenu une mutation et 7 d'entre eux se sont donc confiés à vous à quelques jours de l'hommage à Samuel Paty. Ce sera samedi. Pourquoi ont-ils finalement choisi de parler ?
Ils disent qu'ils en avaient assez qu'on parle à leur place, assez d'entendre par exemple qu'ils ne veulent pas d'hommage, alors qu'au contraire, ils ont réfléchi à organiser cette cérémonie depuis le mois de juillet. Ils avaient aussi besoin de raconter ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu de l'intérieur, montrer qu'ils sont là, debout, aux côtés de leurs élèves. Le rectorat était au courant de cette prise de parole, mais c'est vraiment leur initiative.
Et les témoignages qu'on peut réécouter sur franceinter.fr sont très forts. Comment les avez-vous perçus, ces enseignants ?
On les sent toujours à fleur de peau. Les larmes montent très vite chez certains, surtout quand ils évoquent la reprise des cours l'an dernier, juste après l'assassinat de Samuel Paty. On nous demandait de nous occuper des élèves qui étaient traumatisés, alors que nous étions nous-mêmes traumatisés, explique l'une des enseignantes. Aujourd'hui encore, la peur est très présente. Beaucoup d'entre eux se rendent à pied au collège et ne se sentent pas suffisamment protégés. Mais ce qui est frappant, c'est le lien très fort qui les unit désormais, qui les aide à garder la tête hors de l'eau. Ils racontent par exemple que depuis un an, ils ont beaucoup de mal à se quitter pour les vacances scolaires. Continuer à enseigner, c'est aussi pour eux continuer le travail de leurs collègues disparus. Il avait toujours quelque chose à nous apprendre, disent-ils de Samuel Paty, pour qui ils avaient beaucoup d'admiration. Ils tiennent à rappeler qu'il était ambitieux pour ses élèves et surtout très tolérant.
Le Zoom de la rédaction à réécouter sur franceinter.fr et sur notre site internet. Vous trouvez également les témoignages en détail et en longueur par écrit. C'est un accident très rare, au bilan particulièrement lourd. Au petit matin aujourd'hui, un train régional a percuté 4 personnes qui se trouvaient sur les voies à Cibourg, près de la gare de Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques. 3 personnes sont mortes, dont 2 jeunes hommes algériens. La 4e personne est hospitalisée. Il s'agirait de migrants. Mathilde Ansker, France Bleu Pays Basque.
La boulangerie de Bertrand se situe juste derrière la voie ferrée. Lorsqu'il pétrit son pain, il a vu sur les rails.
C'est régulier de voir des migrants sur la voie ferrée. Ils disent tous la même chose. Ils cherchent la gare la plus proche pour partir.
Alors parfois, le boulanger intervient.
Je me souviens notamment d'un jeune qui avait visiblement entre 15 et 17 ans, qui voulait rejoindre Toulouse parce qu'il avait un frère là-bas. Et en fait, c'était en plein ramadan. Il n'avait pas mangé depuis 3 jours, pas bu depuis 3 jours. On l'a fait descendre de la voie ferrée. On lui a donné à boire, à manger. Je me suis rapproché d'associations pour savoir où c'était le mieux pour l'emmener. Il était 21h et le seul endroit où il fallait qu'il aille, c'était au centre des migrants de Bayonne. Et donc je l'ai emmené en voiture là-bas. 3 jours après, il m'a appelé en me disant qu'il était bien à Toulouse et qu'il avait retrouvé son frère. Et voilà.
Un peu plus loin, on croise Marcel. Elle habite Cibourg depuis sa naissance. La nouvelle ne l'étonne pas.
On est dans une zone de transit ici. Donc avant, ils passaient par les montagnes. Maintenant, on les fait passer par les voies ferrées.
D'autres sont plus surpris, comme ce passant qui vient d'apprendre la nouvelle.
Ça fait 3 ans que je suis là. J'en ai jamais entendu parler.
Les associations de défense des migrants interpellent les autorités sur le sujet depuis plusieurs mois. En août dernier, un homme s'était noyé en traversant le fleuve de la Bidassoa entre l'Espagne et la France.
Et le procureur en dira plus cet après-midi sur les faits sur cet accident ce matin. C'est une illustration particulièrement flagrante de la désertification médicale. Elle nous emmène dans un service d'urgence qui plus est. À l'hôpital de Laval, en Mayenne, selon la CGT, il manque 70% des médecins aux urgences. Pour alerter un peu plus fortement, une partie du personnel est en grève depuis samedi. Maïwenn Bordron, France Bleu Mayenne.
Chaque jour, c'est pareil, les patients s'accumulent dans le couloir des urgences.
On a quand même des personnes qui sont là depuis 19h, 19h30 hier, d'autres 4h du matin, minuit.
Amélie est aide-soignante dans le service.
C'est quand même des gens qui ne devraient pas rester aux urgences et surtout dans le couloir. C'est juste inadmissible qu'il n'y ait pas assez de lits sur l'hôpital.
La pénurie de médecins aux urgences a des conséquences sur la prise en charge des patients. Ça arrive souvent que Mélanie, une infirmière du service, ne soit pas sereine quand elle travaille.
On réoriente les gens, soit sur la polyclinique, soit sur l'hôpital de Mayenne ou Château-Gontier. On fait des journées où il y a un seul médecin pour tout le service et ça, c'est impossible à gérer. Avec une centaine de passages par jour, c'est très très compliqué.
Certains secteurs des urgences sont encore plus touchés par cette pénurie. C'est le cas de la traumatologie. Un médecin remplaçant a par exemple été appelé en renfort ce week-end, explique Amélie, une des aides-soignantes.
Il est venu tout le week-end faire midi, midi et demi jusqu'à minuit. Ce qui nous a quand même bien dépanné. Ça évitait de renvoyer les gens. Et ça veut dire que toute la matinée, on a fonctionné sans médecin. Alors, on comprend qu'il y a une désertification médicale, mais à un moment, on peut pas travailler sans médecin, quoi.
Parfois, les médecins d'autres services viennent prêter main forte à leurs collègues des urgences. Une situation qui n'est pas tenable, met en garde le personnel gréviste.
Mais la grève n'a pas de répercussions puisque le personnel est réquisitionné. Une personne sort d'un pavillon, un paquet de cigarettes de contrebande sur elle. Les policiers étaient en planque. Dans le pavillon, ils ont découvert près de 14 000 paquets. C'était à Stain hier matin, en banlieue parisienne. Voilà l'un des échecs les plus importants dans le domaine de la santé dans l'histoire britannique. C'est ce que dit un rapport parlementaire à Londres qui accable le gouvernement dans son approche de la pandémie de Covid au départ. Le bilan est d'aujourd'hui 118 000 morts pour 67 millions d'habitants au Royaume-Uni, 117 000 morts en France pour 70 millions d'habitants. À propos de l'action du gouvernement, en résumé, au début de l'épidémie, il n'est pas allé assez vite, pas assez fort, et les scientifiques n'ont pas été de bons conseils. France Inter à Londres, Richard Place.
Boris Johnson sans masque qui serre des mains dans les hôpitaux, le Premier ministre n'avait clairement pas choisi la bonne option au début de la pandémie. Au sein du gouvernement, on mise alors sur l'immunité collective par la contamination générale. Jeremy Hunt, député de la majorité, est l'un des auteurs de ce rapport.
Il y avait un fatalisme. On pensait finalement que ce serait le seul moyen de stopper le virus. Nous aurions dû regarder plus tôt ce qui se passait en Corée du Sud et à Taïwan. Ils réussissaient bien mieux à contenir le virus.
137 763 morts à ce jour. Voilà le bilan Covid du Royaume-Uni. Une mauvaise stratégie au départ, un système de tests mis en place beaucoup trop tard. Le ministre Steve Barclay était chargé de porter la parole du gouvernement ce matin dans les médias anglais.
La question du timing du premier confinement reposait sur des conseils scientifiques. À un moment où l'inquiétude était, si l'on confine trop tôt, la population ne voudra pas que ça dure trop longtemps.
Ce rapport pointe aussi la stratégie gagnante du pays sur les vaccins. Le Royaume-Uni a misé et investi très tôt sur cette solution. Le premier au monde a lancé sa campagne dès le 8 décembre dernier. Londres, Richard Place, France Inter.
En Grande-Bretagne encore, en saura-t-on plus dans les heures à venir sur le naufrage du chalutier français Bugalet de Braise au large des Cornouailles. Les 5 marins à bord étaient morts. Les familles sont convaincues qu'un sous-marin britannique était dans la zone et est à l'origine du drame. Le commandant du sous-marin Turbulent témoigne aujourd'hui devant la Cour royale de justice. Elle prend la parole dans les médias français pour la première fois depuis son Nobel de la paix décroché vendredi avec le russe Dmitri Mouratov. Maria Ressa, la journaliste philippine distinguée pour ses articles d'investigation, participe à la 4e édition du festival Médias en scène organisé aujourd'hui par nos cousins de France Info et par les Échos. Elle a fondé le site d'investigation de Rappler en 2012 pour dénoncer la corruption dans son pays. Elle est sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt, devenue la bête noire du pouvoir du président Duterte.
Vous savez, j'ai appris lors des 5 dernières années que toutes les attaques, aussi bien en ligne que dans la vraie vie, sont liées au prix que l'on a pu recevoir ou aux articles d'investigation que l'on a pu sortir. Lorsque j'ai été la cible de 90 messages de haine par heure en 2016, l'objectif était bien d'organiser un effet domino, de créer un méta-récit avec le message « les journalistes sont des criminels ». Marteler un mensonge 1 million de fois le transforme en un fait. Les gens qui ne m'avaient jamais rencontré ont cru que j'étais une criminelle. Et c'est remonté très vite. Un an plus tard, le président Duterte nous a au fond qualifiés de criminels. Une semaine plus tard, nous avons reçu notre première assignation. En 2020, j'ai été condamnée et j'ai reçu mes 9e et 10e mandats d'arrêt. Ça a vraiment été les montagnes russes.
Propos recueillis par Lucas Manget, l'interview de Maria Ressa, prix Nobel de la paix 2021. C'est en vidéo, en ligne, sur mediaenscène.com. Voilà pour cette super woman. Quant à Superman, lui, il fait rimer timidité et virilité dans beaucoup de ses histoires. Son fils ajoute bisexualité. La bande dessinée sortira en novembre. Bonjour Xavier Demani.
Bonjour Bruno.
John Kent, le fils de Clark et de Lois Lane, va tomber amoureux d'un garçon.
Oui, et on le voit sur les premières images dévoilées par DC Comics, le nouveau Superman, bien musclé lui aussi dans son célèbre costume, en train d'embrasser un garçon, cheveux violets, sweat à capuche orange, un certain Jay Nakamura, lui aussi journaliste. Une partie du schéma parental est reproduit, sauf que le fils Superman assume donc ouvertement dans cet opus la bisexualité, annonce hier de l'auteur Tom Taylor, une première pour un personnage principal et une licence aussi importante, explique Morgan Schmidt-Giordano, autrice de BD et spécialiste des représentations.
c'est vraiment incroyable de pouvoir avoir un personnage LGBT et un personnage en plus d'homme bisexuel, puisque c'est probablement en fait la catégorie la plus difficilement représentée dans les comics. On admet plus facilement des personnages bisexuels féminins, des personnages gays hommes, mais des personnages bisexuels hommes, c'est assez nouveau, surtout à ce niveau-là. Ouais.
Inclure plus de personnages féminins, de couleur ou LGBT, un processus pas nouveau chez Marvel comme chez DC, on s'est toujours adapté.
À partir des années 2000, tous ces personnages commencent à se remettre en question. Donc c'est assez normal en fait que dans les années 2010-2020, on ait un renouvellement en fait de ce que font ces personnages. Ils se sont adaptés depuis qu'ils existent et ils vont continuer de s'adapter et d'être un véritable reflet de notre société en fait.
Super-héros d'autant plus contemporain que ses préoccupations évoluent. Injustice sociale, dérèglement climatique, crise des réfugiés. Toujours le même costume, mais plus que jamais en phase avec 2021.
Allez, dans la série Grand Mythe de culture en langue anglaise, les Beatles, on a le fin mot de leur séparation. À vrai dire, rien de très nouveau hein, pour les spécialistes. Mais c'est Paul McCartney qui le dit lui-même, ce qui donne du relief à l'interview accordée au programme This Cultural Life sur la BBC. Qui est à l'origine de la séparation du groupe ? C'est Lennon.
Je ne suis pas à l'origine de cette séparation. Non, non, non. Un jour, John est entré dans une pièce et a dit « Je quitte les Beatles ». C'est assez excitant, c'est un peu comme un divorce. Et puis on est resté à ramasser les morceaux. Mais je ne suis pas à l'origine de cette séparation. C'est Johnny.
Voilà qui est dit, extrait de l'émission donc This Cultural Life, diffusée hier. L'émission en intégralité sera diffusée le 23 octobre. Sachez encore que J.K. Rowling, la maman d'Harry Potter, va publier un nouveau livre pour enfants qu'il s'appellera Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Il est publié aujourd'hui même. À propos d'édition, les éditions De Fallois, qui avaient perdu leur auteur vedette Joël Dicker, eh bien, il suffit d'un auteur de best-seller parfois pour faire tomber une maison d'édition. Les éditions De Fallois annoncent se mettre en cessation d'activité. Vous connaissez sans doute les énormes perles de couleur du kiosque des Noctambules, ces stations du métro Palais-Royal à Paris. Vous connaissez peut-être. Ce kiosque est signé par Jean-Michel Ottoniel. C'est un artiste exposé dans le monde entier et qui a fait de ses perles son univers. Et bien aujourd'hui, il propose une métamorphose du Petit Palais à Paris. Exposition titrée « Le théorème de Narcisse » avec l'idée que Narcisse regarde aussi les reflets du monde. Isabelle Pasquier.
Si vous trouvez que le kiosque des Noctambules est un lieu magique pour une rencontre, alors donnez votre prochain rendez-vous au Petit Palais. Jean-Michel Ottoniel y a installé 70 œuvres avec un rêve, réenchanter cette architecture. Les marches de l'escalier sont transformées en cascades bleues avec 1000 briques de verre soufflées en Inde.
Je me suis posé la question de savoir quel était le chef-d'œuvre de ce Petit Palais. Où est la Mona Lisa ? C'était vraiment l'architecture, le chef-d'œuvre. Cette folie d'architecture qui a été fait en 1900 au moment des grandes expos universelles où on voulait faire rêver les gens. Et moi, je suis là un peu pour la réactiver, pour la réenchanter aujourd'hui, pour redonner cette magie qu'il y avait à l'époque où les gens venaient ici pour se souvenir de l'Italie parce que les gens voyageaient pas beaucoup. Et on est dans une période où on ne voyage plus beaucoup. Donc, arriver à redonner ce côté exotique, mystérieux, ça m'a beaucoup motivé. Et j'ai voulu travailler sur cette idée du paradis, du jardin d'Éden. Et dans ce jardin, j'ai mis une vingtaine d'œuvres posées sur les bassins d'eau qui proposent une vision protégée du monde.
Sur les bassins du jardin, des fleurs de lotus noir et or, des colliers d'or accrochés aux arbres et des sculptures en forme de nœuds de perles. Des nœuds qui sont l'expression de recherche d'un mathématicien mexicain. Ces perles de verre comme une cristallisation de l'art et de la science.
Jean-Michel Ottoniel, le théorème de Narcisse est au Petit Palais à Paris jusqu'au 2 janvier. Dans un instant, la météo.
Attention événement. Alma de Jean-Marie Le Clézio, prix Nobel de littérature, est enfin disponible en poche. Alma nous emmène à l'île Maurice sur les traces du dodo, cet oiseau disparu, et d'une famille que le destin tragique a coupée en deux. Dans ce grand roman, Le Clézio rend un hommage bouleversant à cette culture métissée qui survit dans l'océan Indien. Alma de Jean-Marie Le Clézio, maintenant en folio.
Vous êtes propriétaire d'un logement, vous souhaitez louer solidaire et en toute sécurité ? Solia, solidaire pour l'habitat, vous propose de louer votre bien à une famille aux revenus modestes et d'assurer sa gestion locative. En plus, vos loyers sont garantis et vous bénéficiez d'un avantage fiscal de 85% sur vos revenus locatifs.
Solia est un réseau associatif agréé par l'État. Contactez-nous au 0801 01 02 03, service et appel gratuit ou sur le site immo.solia.fr.
France Inter présente
le prix BD Fnac France Inter, parrainé par Antoine Decaune.
Bonjour, vous aimez la BD? Vous avez envie de faire partie du jury du prix BD Fnac France Inter 2022?
Vous avez jusqu'au 14 octobre pour vous inscrire sur prixbdfnacfranceinter.com et élire les BD finalistes parmi une sélection des meilleurs BD de la rentrée.
30 d'entre vous seront retenus, pas plus.
prixbdfnacfranceinter.com, un événement BD Fnac France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Pas mal de nuages à l'est, c'est ça aujourd'hui ?
Exactement, des Hauts-de-France vers le Grand Est, le nord de la Bourgogne, c'est vraiment très encombré avec en prime quelques pluies près des frontières du nord. Entre la Haute-Normandie, l'Île-de-France, le centre-Val de Loire, on a des éclaircies appréciables. Elles sont plus timides hein, sur le sud de la Bourgogne, la Franche-Comté, l'Auvergne et Rhône-Alpes. En allant vers l'océan et la Méditerranée, là, le soleil l'emporte. Les températures sont un peu justes, seulement 13 degrés à Nancy, 14 à Clermont-Ferrand, 16 à Cherbourg, Paris ou Grenoble, 20 degrés à Bordeaux, à Marseille et 24 à Perpignan. Et puis demain, on aura encore pas mal de nuages au nord de la Loire et dans l'est.
Merci Élodie Calac, Météo France, tout de suite l'invité du 13-14.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Emmanuel Macron a donc présenté ce matin, depuis la salle des fêtes de l'Élysée, le plan France 2030. Objectif, refaire de la France une terre d'innovation, rebâtir l'indépendance productive de notre pays. Cela passe par 30 milliards d'investissements, 7,5 milliards dans la biomédecine, 4 milliards dans les transports du futur, 6 dans les semi-conducteurs, l'hydrogène vert aussi, 2 milliards pour mieux manger et 1 milliard pour le nucléaire. C'est de cela que nous allons parler en particulier avec notre invité. Bonjour Thomas Gassilou.
Bonjour. Bruno Duvic.
Député Agir du Rhône, vous faites partie de ces députés dans la majorité qui suivent ces questions de près. D'abord vous, les députés de la majorité, maintenant vous allez être chargés de relayer la bonne parole après ce plan France 2030. Quels arguments allez-vous utiliser pour dire les bons choix ont été faits? On a entendu dans le journal de 13h Philippe de Sertine, qui n'est pas un économiste franchement anti-macroniste, dire c'est pas les bons choix qui ont été faits, il fallait miser sur le cloud, sur la data, là c'est trop de saupoudrage. Vous, comment allez-vous défendre ce plan?
Alors, non seulement on défend ce plan, mais on a participé également à sa co-construction, puisqu'on a en contact en permanence avec l'exécutif et qu'on construit les politiques publiques avant même qu'elles arrivent à l'Assemblée. Je crois que ce plan, il faut le voir comme un plan qui tire les enseignements de la crise sanitaire, qui a montré des points extrêmement positifs pour notre pays, notamment la robustesse de son modèle social. Quand l'État veut, l'État peut. Mais il a montré également des faiblesses et notamment des dépendances technologiques. Oui. Et dans un monde qui bouge, on a de nombreux défis à relever, notamment celui de la transition écologique. Il est nécessaire que l'État stratège, de temps en temps, mette la main au porte-monnaie pour investir dans les technologies d'avenir. Et donc ce plan, c'est finalement innover, produire pour protéger notre modèle social.
30 milliards, ils viennent d'où? Comment sera-t-il financé ce plan?
Alors, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines dans le cadre du projet de loi de finances. Ce plan sera financé dans le cadre du budget de l'État. Donc budget qui est alimenté...
Parce que pour l'instant, le projet de loi de finances, le plan n'y figure pas. Ce qui fait dire au Conseil des finances publiques que voilà, le budget est très difficile à lire, voire un peu mensonger.
Effectivement, le gouvernement portera sans doute un amendement pour faire passer ce plan. Mais il faut vraiment voir ça comme un investissement. Il y aura un retour sur investissement qui sera bien supérieur que les 30 milliards d'euros qui ont été investis. Encore une fois, ce n'est pas de la dépense récurrente, c'est un investissement qui va porter ses fruits dans les années qui arrivent.
Un milliard pour le nucléaire. Alors, en lançant les questions aux auditeurs, j'ai posé cette question. Énergie d'avenir ou pas? Que dites-vous? Énergie, oui, d'avenir et pour des décennies, le nucléaire en France?
Ah oui, bien entendu, puisque vous savez qu'on a l'objectif de décarboner notre économie, nos modes de production, nos modes de consommation. Et donc, on a non seulement besoin des ENR, des énergies renouvelables, naturelles, mais qui sont des énergies par nature qui sont intermittentes et limitées. Et on a besoin, en complément de ces ENR, d'une source constante et puissante de production d'énergie. Et c'est là que le nucléaire rentre en jeu. C'est la seule énergie pilotable et décarbonée. Quand on appuie sur le bouton, ça fonctionne. Et c'est une énergie, contrairement à ce que croient 70% des Français, qui est totalement décarbonée. La fumée que vous voyez sortir des réacteurs nucléaires, ce n'est que de la vapeur d'eau, ce n'est pas du tout du carbone ou de la pollution.
L'argument du climat est donc l'argument numéro un pour continuer à investir dans le nucléaire.
Bien entendu. Alors l'argument du climat, l'argument de l'autonomie stratégique, on a vu à quel point pendant la crise l'autonomie stratégique était importante. L'argument économique, le nucléaire c'est 200 000 emplois, et l'argument également de l'énergie bon marché pour l'ensemble de nos concitoyens. pour accompagner cette stratégie productive annoncée par le président de la République.
Est-ce qu'on reste sur un objectif de passer de 75 à 50% du mix énergétique en 2035 en nucléaire, donc baisser tout de même la part du nucléaire dans le portefeuille?
Exactement. On maintient cet objectif, sachant que la consommation en électricité va fortement augmenter, non seulement du fait des usages, mais également du fait de la décarbonation des usages. On va moins consommer de pétrole pour nos voitures, on va décarboner l'usage en passant sur l'électricité. Et donc, on estime que si aujourd'hui l'électricité, c'est uniquement 25% de l'énergie consommée en France, progressivement, on va passer à 50%, voire plus.
Vous ne misez pas, cela veut dire quand vous nous dites la consommation va augmenter, vous ne misez pas aussi sur ce que demandent certains économistes, même la sobriété. J'ai le message de Manuel qui dit oui, le nucléaire énergie de transition décarbonée incontournable, il dit transition, mais pour économiser l'énergie, utilisez vos objets plusieurs fois, voitures, vélos, vêtements, bref, misez sur la sobriété. On écarte la notion de sobriété, Thomas Gassilou?
Pas du tout, je crois que Manuel a raison. La seule énergie propre, c'est celle que l'on ne consomme pas. Le nucléaire, les panneaux solaires produisent des déchets. Et donc, si on veut tendre vers un comportement plus vertueux, effectivement, il faut optimiser, modérer notre consommation électrique, par exemple au travers de l'isolation, au travers des transports collectifs. Mais malgré tout, nos usages, notre vie quotidienne, notre vie nécessite de l'énergie. Et donc, on a besoin des ENR, on a besoin du nucléaire pour accompagner nos usages du quotidien.
Allez, le standard de France Inter. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour.
Vous habitez près de Bure, dans la Meuse. Nous vous écoutons, Bure, où les antinucléaires sont nombreux. Nous vous écoutons.
Oui, bien bonjour. Outre la dangerosité de cette énergie passée sous silence, je demande comment considérer le nucléaire comme économiquement viable. On regarde du coût faramineux d'une installation de centrale, des dizaines de milliards d'euros auxquels on ne pense pas forcément pour investir dans le démantèlement, et des dizaines de milliards d'euros aussi pour la gestion des déchets, ce qui signifie d'ailleurs au passage que vous avez déjà avalisé le projet fumeux CGO et que l'enquête d'utilité publique actuelle n'est que du pipeau. Donc vous êtes très fort pour corrompre les collectivités, ça continue, donc pour mettre une pression terrible au niveau des opposants, et je trouve que c'est vraiment lamentable sur le plan de la démocratie.
CGO, c'est l'enfouissement des déchets nucléaires. Merci Patrice pour ce témoignage. Je retiens la fuite en avant économique, Thomas Gassilou. C'est vrai que le nucléaire, c'est des milliards et des milliards, alors sans parler de l'EPR dont le coût a explosé de 3 à 19 milliards en 10 ans, cette fuite en avant du nucléaire qu'on ne maîtrise pas, pour dire les choses clairement.
Alors si, on le maîtrise. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à la fin
du
mois...
Vous êtes sûr qu'on maîtrise le coût du nucléaire au fil des décennies?
Bien entendu, on le maîtrise. Monsieur parlait du coût. Ouais. Bien entendu, que ce soit les questions de démantèlement, de recyclage, sont pris en compte dans le coût du nucléaire. Tout ça est audité. Donc le nucléaire est parfaitement maîtrisé, et notamment en France, où on a des organismes indépendants, notamment, qui gèrent les questions de sûreté. Ensuite, il y a une deuxième question qui est posée au travers de CIGEO, puisque ouais, monsieur a dit la Bure, effectivement, donc je comprends son inquiétude. Il a cité une enquête publique qui a lieu en cours, ce qui est bien une démarche de transparence et de questionnement de l'ensemble des parties prenantes dans ce projet, notamment des riverains.
Beaucoup de gens disent que les conclusions sont déjà écrites.
Ah bah non, s'il y a une enquête publique, les conclusions ne sont pas écrites. Et je peux vous dire que je suis allé auditer pour ma part les conditions dans lesquelles on gère les déchets. On a un attachement extrêmement important, extrêmement méticuleux à ce que ces déchets soient vitrifiés, mis dans des emballages métalliques, enfouis sous terre, pour que pendant des milliers et des milliers d'années, il n'y ait aucun risque pour la nature.
Donc la solution, c'est l'enfouissement ou c'est l'exportation en Russie des déchets?
Ah non,
comme ça se pratique à nouveau?
La France a toujours été, à ma connaissance, totalement autonome dans la gestion de ces déchets. C'est le pays en pointe au niveau mondial sur le multi-recyclage. Il y a le site de La Hague qui nous est envié par de nombreux pays. Donc s'il y a bien un sujet sur lequel la France est en pointe, c'est l'énergie nucléaire et notamment sur la gestion des déchets.
Il n'y a pas à nouveau d'exportation de déchets nucléaires vers la Russie?
À ma connaissance, il n'y a aucune exportation de déchets nucléaires vers la Russie. Il y a les Allemands, à un moment donné, qui nous ont envoyé quelques déchets pour qu'on puisse les retraiter, mais ces déchets ont vocation à retourner en Allemagne.
Marc, au standard de France Inter, bonjour Marc.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Voilà, donc moi je conteste l'autonomie énergétique parce qu'on dépend des mines d'uranium qui ne sont pas en France, que je sache, et j'ai entendu dire que dans 10 ans il n'y aurait plus d'uranium et ces mines seraient épuisées. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et deuxième question, par rapport au réchauffement climatique, Si la température diminue, augmente beaucoup, il n'y aura plus d'eau dans les rivières pour refroidir les centrales. Est-ce qu'on y a pensé à ça, ce petit détail?
Merci,
parce
Marc.
Je me souviens juste deux secondes.
Oui, allez-y.
C'est qu'il y a à Chinon en 2019, dans la région à Saumur, il n'y avait quasiment plus d'eau dans la rivière. Alors voilà, donc deux questions sur l'autonomie réelle par rapport aux mines d'uranium. Et si jamais les djihadistes envahissent la région, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on prévoit tout ça, quoi, dans
Merci Marc. L'uranium vient en particulier du Niger et du Kazakhstan. Risque-t-on la pénurie au fil des années?
Alors Marc a raison, on a fermé les mines d'uranium en France, donc on a une dépendance aujourd'hui de mines d'uranium, mais ce marché est extrêmement ouvert et nos fournisseurs sont très diversifiés. Vous avez cité des destinations, il y a également le Canada, il y en a d'autres. Et bien entendu, on fait des stocks pour être totalement autonome là-dessus. Ça, c'est la première question, la diversification. Au-delà de la diversification, deuxième réponse que je peux apporter à Marc, on développe actuellement le nucléaire de troisième génération. Et dans le nucléaire de quatrième génération, le nucléaire suivant, on sera en mesure d'utiliser les stocks d'uranium appauvri que nous avons en France. Ces stocks qui sont l'issue finalement de 40 ans de production nucléaire. Et ces stocks pourraient nous donner plusieurs milliers d'autonomie énergétique. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que le nucléaire est un secteur où l'innovation continue. Et cette innovation va nous permettre de tendre vers l'autonomie énergétique. Et puis, il y avait une troisième question.
Sur le risque terroriste au Niger.
Je vous ai répondu. Il y a aujourd'hui une diversification des approvisionnements en termes d'uranium. Et donc, il n'y a aucune dépendance de tel ou tel pays. Et par ailleurs, on sera d'ici une vingtaine ou une trentaine d'années en mesure d'utiliser les stocks d'uranium appauvri que nous avons en France, qui va nous donner plusieurs milliers d'années d'autonomie énergétique.
À propos de nucléaire future génération, pas d'annonce de nouvelle construction d'EPR dans le discours du président de la République ce matin?
Effectivement, aujourd'hui, les annonces étaient focalisées sur les SMR, donc ce sont les petits réacteurs modulaires, où effectivement il y a une révolution technologique qui est en cours. Concernant les EPR, RTE va annoncer ses scénarios d'ici la fin du mois, et peut-être que après, une fois que ces scénarios seront annoncés, le président aura l'occasion de faire l'annonce à l'échelle des EPR. Mais
donc l'hypothèse de construction de nouveaux EPR n'est pas totalement écartée. Mais
aujourd'hui, je crois que personne de sérieux n'exclut cette hypothèse. Encore une fois, concernant du fait de notre volonté d'avoir une énergie totalement décarbonée, ça ne peut pas se faire uniquement sur la base des énergies renouvelables. Encore une fois, les énergies renouvelables, c'est bien, mais ça marche quand il y a du vent ou quand il y a du soleil. Or, les métros, nos hôpitaux, notre vie quotidienne, ça doit également, ça consomme de l'énergie, y compris quand il n'y a pas de vent et quand il n'y a pas de soleil. Et malheureusement, l'électricité, aujourd'hui, on ne sait pas la stocker massivement.
Quelle réponse, Thomas Gassilou, à cette réalité que le drame de Fukushima a rappelé? Le nucléaire, quand ça se passe mal, ça se passe très mal. Et un accident peut arriver à tout moment et créer, avoir des conséquences ravageuses.
Bien entendu, le nucléaire a bien des qualités, mais il a deux défauts majeurs qu'il faut corriger petit à petit. Les déchets, on en a parlé, et le risque. Alors, ce que je peux dire concernant le risque, en France, il est extrêmement suivi au travers notamment de l'IRSN, qui est un institut indépendant qui met un très haut niveau d'exigence en matière de sûreté pour que le risque soit infinitésimal. Et le deuxième point que je voudrais vous indiquer, c'est que concernant les énergies fossiles, on sait de manière certaine que chaque année, il y a 50 000 morts par an liés à la pollution atmosphérique. Donc certes, on a un risque infinitésimal concernant le nucléaire, il ne faut pas le nier, mais face à ça, les autres sources d'énergie que vous pouvez consommer produisent des dégâts beaucoup plus importants. Encore une fois, il n'existe pas d'énergie propre. La seule énergie propre, c'est celle qu'on ne consomme pas, d'où l'intérêt de faire des efforts pour modérer notre consommation.
Autrement dit, quand on est un élu de la nation comme vous, quand on est un décideur public, on prend cette décision d'investir et de prolonger les investissements dans le nucléaire de manière sereine malgré les risques lourds qui existent.
Vous savez, quand on est élu, on prend des décisions qui amènent des risques en permanence. Et donc, Machiavel lui-même disait la bonne décision n'est pas un choix entre le pire et le mal, mais entre le pire et le moins mal. C'est-à-dire qu'on arbitre entre l'ensemble des critères qu'on a et les objectifs qu'on a, et notamment un des objectifs importants pour la France, c'est l'autonomie stratégique, c'est l'énergie bon marché pour l'ensemble de ses entreprises et l'ensemble de ses citoyens. Et je crois que le nucléaire, quand on prend en compte l'ensemble de ces critères, est une bonne réponse.
Merci Thomas Gassilou, député Agir du Rhône, d'être venu dans les studios de France Inter après après donc la présentation de ce plan France 2030 d'Emmanuel Macron, qui prévoit notamment 1 milliard sur les 30 milliards consacrés au nucléaire et à ses plus petites centrales. Pas d'annonce concernant les EPR, on verra si c'est le cas dans les semaines à venir. Merci à vous. 13h44.
France Inter. Le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Duvic.
Alors nous allons disséquer un éléphant tout à l'heure avec vous.
Oui, les sources d'énergie c'était l'eau au château de Versailles, mais il y avait aussi des animaux, dont un éléphant.
Versailles et les animaux, ce sera le vif. Le feuilleton, ce sera une semaine dans la vie de l'entrepreneuse sociale Alice Barbe. Aujourd'hui, comment une petite Française est repérée par l'équipe de Barack Obama. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Un danseur de claquettes à votre micro aujourd'hui. Fabien Ruiz, le chorégraphe du film aux 5 Oscars, The Artist, qui est sorti il y a exactement 10 ans.
Un film de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo, auquel Fabien Ruiz a donc appris à danser, à jouer des claquettes. Et c'est une chanson de 1962, année de sa naissance, qu'il a choisi de nous faire écouter. Chanson dont les paroles ont été écrites par son père. Le nom d'artiste de son père, c'était Michel Rivegauche.
Mon père était un auteur très important dans la chanson française, d'abord par la production. Il a écrit plus de 1500 chansons, donc sous son pseudonyme de Michel Rivegauche. Et puis c'est un auteur qui a été chanté, interprété par énormément d'artistes. À partir de la fin des années 50 jusqu'à son décès en 2005, Nana Mouskouri, Henri Salvador, Édith Piaf bien sûr, Maurice Chevalier, Tino Rossi, Fernandel, etc. Il n'était pas un auteur attitré à un interprète précis, mais écrivait essentiellement des chansons d'amour qui étaient vraiment son sujet de prédilection. C'était un grand romantique. Et puis il avait un autre répertoire qui n'avait rien à voir, qui était la chanson fantaisiste.
Si toutes les larmes qui sont nées à Paris, si toutes les larmes essuyées à Paris pouvaient tomber en pluie, alors la Seine en une nuit, la Seine alors déborderait et Paris se noierait. Oui, mais moi je me dis, quand je vois dans tes yeux quelques larmes, c'est Paris qui peut-être a choisi ces yeux-là pour y verser des larmes de joie.
Le titre de cette chanson, Frédéric, c'est « Les sourires de Paris ».
Avec une musique de Jos Baselli et Armand Canfora, et c'est avant tout pour son interprète, en l'occurrence,
Bourville,
que Fabien Ruiz a souhaité nous la faire écouter.
Moi, j'ai choisi cette chanson d'abord parce que c'est Bourville, parce que j'adore cette mélodie qui est avec des arrangements de jazz, il faut le dire, parce que je me suis rendu compte, après le décès de mon père, en me plongeant dans tout ce qu'il a pu écrire, que dans les années 60, qu'on assimile beaucoup à la période yéyé, il y avait beaucoup, beaucoup de chansons avec une rythmique jazz derrière. C'est un style qui swing. Et cette chanson qui est très douce, Les sourires de Paris, que j'adore beaucoup, j'adore ce texte parce que comme mon père, j'adore Paris. Le choix de faire ce petit swing, et on entend au milieu de la chanson le petit chorus instrumental, je trouve que ça met encore plus en valeur cette très belle mélodie.
Si tous les sourires qui sont nés à Paris, si tous les sourires envolés à Paris illuminaient le ciel sous la chaleur de ce soleil et dont l'amour a le secret, Paris brûlerait.
Est-ce que sur une chanson comme celle-ci, on peut jouer des claquettes ?
C'est une chanson sur laquelle on peut mettre un son de claquette, une rythmique de claquette, très doucement. Quand on pense au grand film avec les claquettes, c'est forcément des tempos rapides parce qu'il n'y a que un ou deux morceaux de claquettes dans le film. Donc il faut tout de suite aller au côté spectaculaire. Mais quand je fais un concert avec des musiciens, un concert d'une durée normale, d'une heure et demie, il faut varier. Donc je fais des tempos rapides, je fais des standards de jazz énergiques. Mais j'aime beaucoup faire un petit tempo très doux, avoir un phrasé un peu comme un batteur qui pose ses baguettes et prend des balais. Vous voyez, d'un seul coup, il y a la douceur de la frappe. Et donc, moi, j'aime beaucoup jouer de cette façon-là.
C'est Paris, mon amour, Paris qui aime ceux qui s'aiment. Paris qui offre à ceux qui s'aiment les sourires de Paris.
Les sourires de Paris, interprétés par Bourvil, c'était donc Frédéric, le choix du chorégraphe et danseur de claquettes Fabien Ruiz.
Que vous pouvez retrouver en concert ce vendredi à Vaux-sur-Mer en Seine-Maritime, puis le 27 novembre à Saint-Vrain, c'est dans l'Essonne.
À demain.
À demain.
Le feuilleton Une semaine dans la vie d'Alice Barbe. Elle est ce qu'on appelle une entrepreneuse sociale. Dit plus simplement, elle multiplie les projets pour changer les choses autour d'elle. Son accomplissement le plus connu, c'est Singa. Elle a participé à sa fondation, l'organisation qui aide à l'intégration des réfugiés. C'était il y a près de 10 ans. Et ça lui a valu, à l'époque, une certaine notoriété. Et ensuite, une invitation surprise. Nous sommes en 2018. Elle va prendre la direction des États-Unis. Alice Barbe avec Antoine Gignon. Gignot, le feuilleton épisode 2.
Au moment où la Fondation Obama me contacte, moi je suis très fatiguée parce que ça fait presque 5 ans que je gère Singa en direction générale. Je reçois à l'époque beaucoup de menaces en ligne, de menaces de mort, de menaces de viol, parce que je bénéficie d'un peu de visibilité. Je viens d'avoir un enfant aussi à ce moment-là. Donc au moment où il me contacte, moi je suis au bout du rouleau. Et là, c'est un truc incroyable, c'est un mail où ils me disent, on a identifié voilà, plusieurs milliers de leaders civiques qui font des choses, on crée un programme, faut pas trop en parler. C'est un programme où on vous propose de passer un an avec le président Obama, son épouse également, et toutes les personnes qui ont fait partie de son administration à la Maison-Blanche. Et au terme de 6 mois d'entretien, de candidature, je suis prise avec 11 autres personnes, 11 autres activistes. On est 2 Européens, il y a un garçon bulgare et moi. Et donc je pars, je m'envole avec ma famille pour New York et je passe un an. On rencontre plein de gens, on a rencontré son mentor, son pasteur, des personnes des quartiers sud de Chicago. On a fait beaucoup de bénévolat dans les quartiers sud. Et dans notre agenda millimétré, il y a écrit « mardi après-midi, invité surprise ». Et on est en train de déjeuner juste avant. Et là, une dame arrive et dit « bon alors, maintenant je vais vous demander de me donner tous vos téléphones, vos iPads, vos ordinateurs, tout ce qui est susceptible d'enregistrer une conversation. Vous me donnez tout, vous allez rentrer dans cette salle, vos noms sont inscrits sur des chaises et vous allez vous asseoir et vous ne vous levez pas. Le président Obama arrive, si vous vous levez, le Secret Service va vous tomber dessus et on ne plaisante pas avec le Secret Service ». Et voilà, et on passe 3 heures avec lui à échanger. Tout de suite, la première chose qu'il nous dit, c'est « Vous n'êtes pas juste là pour apprendre de nous, de moi, mais moi, je suis là pour apprendre de vous. »
Qu'est-ce qu'il en reste dans votre tête à vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en reste?
C'est la discipline dans mon action et pour moi, pour que moi je reste en forme. Ça, c'est Obama qui me l'a appris, la discipline de dormir, de pas trop boire, de bien bouffer, de faire du sport, de lire, de s'ouvrir, de prendre du temps pour sa famille, pour protéger ma famille. Parce que là, dans ce contexte-là, dans ces conditions-là, je sais que je vais être efficace.
Comment on se sent quand on passe une année entière avec ceux qui ont dirigé les États-Unis?
Il y a des moments où je me sens incroyablement privilégiée. Il y en a d'autres où je me sens profondément en colère parce que ce sont des personnes qui ont pris des décisions, qui ont eu un impact sur la vie de millions de personnes qui soit sont mortes, soit sont devenues réfugiées, soit vivent en profonde précarité. Je pense à la Syrie, je pense à la Libye. Est-ce que moi, j'aurais fait la guerre? Est-ce que je ne l'aurais pas faite? Pourquoi? Sur quel fondement? Je n'ai pas encore la réponse, mais en tout cas, le fait de me poser la question me fait beaucoup réfléchir à ça et à comment on peut accompagner finalement toute une nouvelle génération à se fonder sur des valeurs. Et l'engagement, il n'est pas obligé d'être radical, on n'est pas obligé d'être ni dans la violence, ni dans le contre-tout. Mais je pense qu'on doit vraiment s'engager de manière beaucoup plus profonde aujourd'hui, beaucoup plus forte, beaucoup plus organisée. Et cette organisation, elle peut aussi venir du politique. Et ça, c'est ce que j'ai appris d'Obama. Parce que lui, il y est arrivé. Il n'est pas arrivé à réaliser tout ce qu'il voulait réaliser. Et puis la paix dans le monde n'existe pas. Mais en tout cas, il a essayé et il est arrivé jusqu'à un certain point.
Une semaine dans la vie d'Alice Barbe, feuilleton d'Antoine Gignot, réalisé par Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire à Versailles, ouvre une importante exposition sur le roi et les animaux. Le directeur du musée dit lui-même que les commissaires de l'expo l'ont voulu, je cite, militante.
Militante, c'est pas un mot qu'on emploie souvent à Versailles, hein, Bruno. Et ils s'appellent les commissaires Alexandre Maral et Nicolas Milovanich. Ils soutiennent qu'à la cour, on n'a jamais considéré les animaux comme des machines. Les princes et les courtisans se seraient humanisés en la compagnie des animaux domestiques, des chiens aux petits singes, en passant à partir de Louis XV et Marie Leczinska par les chats. Et ils auraient beaucoup appris des espèces rares que collectionnait le souverain. Le caméléon, par exemple, ce rare saurien arboricole, bah, c'est un reflet assez exact du courtisan. L'exposition, cependant, est si militante selon les critères d'aujourd'hui qu'elle n'ose pas faire à la chasse la place principale qu'elle devrait avoir dans ce processus d'éducation mutuelle de l'homme et de l'animal. Le roi chassait un jour sur trois. Le grand parc, 10 à 15 fois plus grand que le domaine actuel, était ceint d'un mur de 40 km pour retenir le gibier qui parvenait néanmoins à filer par les 24 portes. En matière d'animaux, la première question que se pose à Versailles, c'était « Le gibier qu'on tire va-t-il disparaître ou sa régénération est-elle possible ?» Et la monarchie absolue, qui prétendait contrôler les eaux du château, était dans le domaine cynégétique contrainte de pratiquer ce que l'historien de Versailles au naturel, Grégory Quenet, a appelé déjà une politique environnementale.
Et cette exposition, Le roi et les animaux, reconstitue une partie du dispositif de la grande ménagerie, au centre de laquelle une pièce octogonale percée de fenêtres permettait de voir les animaux rares regroupés dans les cours et les enclos.
Et on y installait les animaux dans ces cours, les animaux que le souverain recevait par les intendants des galères ou ceux de la marine, ou bien par les échanges diplomatiques. Un fameux éléphant, par exemple, offert par le régent du Portugal en 1668. Mais ici aussi, il ne faut pas prendre les mœurs de la cour pour les nôtres. Le roi, figurez-vous, aimait assister aux dissections de ces animaux rares. Il rendit ainsi visite à celle de l'éléphant en 1681. S'étonnant de ne pas reconnaître l'anatomiste, il fut bien aise de le voir, surgissant des entrailles de la bête, tout visqueux, et dire « En réalité, sire, c'était une éléphante ». À noter aussi que nombre des pensionnaires de la grande ménagerie ne servaient pas qu'à l'apparat, ils pouvaient être consommés. Dans une ménagerie de volatiles remplis, vivaient le cygne et l'oison, celui-là destiné pour le regard des maîtres, celui-ci pour son goût. Un matin, le cuisinier, ayant trop bu d'un coup, prit pour oison le cygne et le tenant au cou, il allait l'égorger et puis le mettre en potage, une fable de La Fontaine.
Le fonctionnement de la grande ménagerie reposait sur l'exploitation agricole.
Alors, à partir de 1753, le grand parc est géré par le roi. Attendez, c'est pas le souverain, c'est Charles Georges le roi, auteur d'un des premiers livres sur le comportement animal, on peut même dire sur l'intelligence animale, et participant à l'encyclopédie. Il a notamment rédigé l'article « Fumier ». Alors, à Versailles, le roi, enfin celui-ci, ouais, s'appuie sur les gros fermiers à qui il confie les terres et il passe une sorte de pacte avec ses exploitants informés et tous ceux qui, à la cour, chassent en philosophe, c'est-à-dire en étant attentifs à la régénération des animaux et à leur compréhension des situations.
Alors, la chasse, l'observation, la dissection des animaux, leur consommation, la terre, la révolution prendra nettement moins soin de la nature que les rois.
Oui, bah, il faut bien le dire. Hein. Les ravages commencent en 1789, 4 août 89, abolition du privilège de la chasse. Alors, qui peut se procurer un fusil ? Tire ! Louis XVI lui-même est réveillé par les coups de feu qui jaillissent de son propre parc. Octobre 89, il est contraint de quitter le château. Il se réveillera désormais aux Tuileries. Le gibier versaillais est massacré, cuit avec le bois dérobé au grand parc, mangé sur place. Août 1792, le roi maintenant se réveille à la prison du Temple après sa chute. Les Jacobins de Versailles marchent sur la grande ménagerie et la pillent, épargnant à peine le rhinocéros à deux cornes qui mourra en 1793, noyé par la négligence des hommes. Alors, l'exposition de Versailles ne semble pas insister beaucoup là-dessus. Militante, peut-être, mais enfin, elle ne veut tout de même pas apparaître comme contre-révolutionnaire.
L'exposition Les animaux du roi, c'est du 12 octobre au 13 février au château de Versailles. Merci Jean Lebrun. Et bien le bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel est le programme, s'il vous plaît, monsieur de la Terre au carré?
Eh bien nous allons parler du sol à l'intention de ceux qui le piétinent.
C'est noté, à tout de suite.